Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. Nous ne sommes pas un jeudi, nous sommes un vendredi et il y a des raisons bien spécifiques à cet épisode qui sort un jour plus tard que d'habitude, Nico.
Oui, effectivement, la raison principale, c'est qu'on l'enregistre depuis une voiture.
Oui.
Quelque part, entre Zoug et Genève, qui ne roule pas quand même, on a pris nos précautions.
On s'est garé.
On s'est garé sur une aire d'autoroute, un peu glauque. Oui. Avec des gens, il y a quelqu'un qui est passé devant nous, nous a regardé, mais c'est qui les deux avec leur casque là?
Oui.
C'est voilà. Mais donc, on enregistre sur le retour de la belle victoire à Zoug il y a un peu plus d'une heure maintenant.
C'est ça, une heure et demie, oui.
Voilà. Et on voulait vous faire un dernier épisode pour cette année. Et on ne voulait pas l'enregistrer avant le seul match de la semaine. Donc
on a bien fait finalement avec du recul.
Oui, parce qu'on vous aurait certainement dit à quel point ça aurait été compliqué d'aller gagner à Zoug, alors qu'en fait Genève Servette a roulé sur Zoug pendant 60 minutes. Donc,
c'est ça.
Voilà.
Donc voilà, on se retrouve, on est le jeudi 23 décembre, il est 23h37 au moment où on enregistre cette intro, l'épisode est déjà en boîte. Et qu'est-ce qu'on fait sur cet épisode, Nico?
Bah, on va tirer un premier bilan de Yann Cadieu depuis son arrivée à la tête de l'équipe le 10 novembre et le licenciement de Patrick Caimont. Et on va essayer de comprendre ce qui fonctionne mieux et de simplement est-ce que cette décision, aussi impopulaire fût-elle à l'époque où elle a été prise, est finalement devenue une bonne décision.
Tout ça en 25 minutes pour le dernier épisode de cette année 2021. On marquera ensuite une courte pause d'une semaine et on reviendra en début d'année. Mais on vous explique tout ça dans l'épisode. Installez-vous confortablement. 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. C'est parti.
Wow, 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 wow.
On voulait parler aujourd'hui aujourd'hui, ce soir, on enregistre ce podcast, il est 23h12, tu l'as dit, entre Genève et Zoug, j'adore ce concept.
C'est génial.
On voulait revenir aussi un peu sur Yann Cadieu, mine de rien.
Oui, parce qu'on avait hésité à faire un premier bilan de Yann Cadieu après 3 matchs, je pensais que c'était peut-être un petit peu tôt. Là, il en a dirigé 8 depuis sa prise de fonction le 10 novembre, il en a gagné 6.
Oui.
Voilà,
c'est défaite en prolongation.
Une défaite en prolongation et une défaite à Lugano lors d'un non-match absolu.
Oui.
Le bilan, vu que c'est un peu l'exercice de l'épisode, le bilan, on l'a dit, 6 victoires en 8 matchs, dont 4 consécutives.
4 consécutives contre 4 équipes
contre
du top 6.
Contre 4 équipes du top 6, en plus, effectivement. Il y a Rapid, Bienne, Zurich et Zoug ce soir. On a été les premiers, parce qu'on ne va pas tout d'un coup dire qu'on avait prédit que ça allait être une bonne chose, on avait été les premiers à regretter le départ de Patémon, même si on avait essayé de trouver aussi l'explication du pourquoi cette décision avait été prise. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aymon, Cadieu, peu importe de quel côté on se positionne, on ne peut quand même pas nier les faits. Et les faits, c'est qu'il y a 6 victoires en 8 matchs, alors qu'avant, il n'y avait pas de victoires en plein de matchs. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts du bilan de Patémon, mais ce qui est sûr, c'est que le bilan depuis Yann Cadieu, il est bon.
Oui.
Il y a tout ce qui se dégage aussi autour de ce club qui va mieux.
Moi, je regarde toujours en soi le départ de Patémon, mais en tant qu'humain, de nouveau, humainement,
oui.
Humainement, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Même tout le monde continue de le dire dans le vestiaire, mais c'est vrai que tu l'as dit, et je pense que ce que tu viens de dire est hyper important, c'est ce qui se dégage du club. C'est une certaine sérénité, il y a des rires à la fin dans les vestiaires. Tout le monde recommence à être un peu plus détendu, et mine de rien, Genève Servette reste sur 4 victoires consécutives, alors qu'avant, Genève Servette n'avait pas gagné 3 matchs consécutivement depuis le début de saison. Et Genève Servette avait atteint ses 2 victoires de suite hyper tard dans la saison.
Ouais.
Genève Servette sortait vraiment d'un truc pénible, et en dehors de ça, il y a plusieurs choses qu'on critiquait, sur lesquelles on critiquait Patémon, et à juste titre. Et l'un des premiers points, je pense qu'on va aborder, c'est le temps de jeu donné aux joueurs. Mine de rien, et il y a aussi quelque chose qui est très bien pour la comparaison, c'est qu'on a tout de suite dit, mais de toute façon, Yann Cadieu va gagner avec Genève Servette parce que les blessés sont de retour, etc. Là, on parle quand même d'un match où Théo Campagna a joué en quatrième ligne et a joué son match avec Evan Testa comme 13e attaquant. L'équipe affichée lors du match contre Zoug le jeudi 23 décembre est l'une des pires équipes qu'on ait vues de la saison en termes... Enfin, l'une des pires, c'est peut-être pas le bon terme.
Non, mais c'est l'une de celles où il y a le plus d'absents.
Où il y a plus de routiniers, voilà. Absents, etc. Et Genève Servette, alors certes, Zoug en face a été mauvais.
Alors, Zoug a passé à côté de son match.
Passé à côté de son match.
Pas le nier,
mais Genève Servette a gagné 5-1 aussi sur la glace de Zoug. Il fallait marquer ses 5 buts. Et franchement, moi, l'excuse des blessés, Patémon a eu des blessés, Cadieu a eu des blessés. 4 victoires consécutives pour Yann Cadieu.
Oui, parce qu'on entend ci et là qu'on n'a pas donné les mêmes armes concrètement. Ce qu'on peut entendre, c'est qu'en gros, on donne des armes à Cadieu qu'on n'avait pas donné à Aymon. Encore une fois, je crois qu'on en a déjà parlé, donc on ne va pas forcément s'éterniser, mais sur notamment la problématique du gardien. Yann Cadieu a pu bénéficier du renfort de Türkirchen et maintenant du renfort de Niffler, qui a fait un très bon match ce soir pour sa première en Liga. Le timing est aussi fait aussi que là, il fallait absolument pouvoir se renforcer au poste de gardien, alors qu'à l'époque de Patémon, on pensait encore que Stéphane Charlin pourrait être l'homme de la situation en cas d'absence de Gauthier Desclous.
Donc, et Gauthier Desclous n'est pas blessé de longue date.
Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas non plus sous-entendre qu'on a voulu pousser Patrick Aymon sur la touche en lui donnant pas toutes les armes, puis en attendant que Cadieux arrive pour faire en sorte que les choses bougent. Non, Patémon avait la même équipe à disposition. Voilà, le timing n'a peut-être pas été le bon. Il y a peut-être eu des retours. Aujourd'hui, les carrières le coulent. On ne parle plus d'un retour de blessure. Ouais. Alors que quand ils jouaient sous Patémon, bah, ils étaient sur ce retour-là. Donc, évidemment que tout a changé. Mais encore une fois, et on a fait la semaine passée le bilan de Marc Gauthier. On
fait beaucoup de bilans.
C'est un peu, voilà, c'est la période qui s'y prête. Hein, mais la décision qui a été prise a été impopulaire auprès du public, dans la grande majorité, parce que Patémon est quelqu'un d'éminemment sympathique. Hein, encore une fois, tu mets n'importe qui, un Craig
Woodcroft. Même mon amant sympathique.
Il est 23h30, mesdames et messieurs, pardonnez Sébastien qui fatigue un petit peu. Mais si tu enlèves la part de sympathie de Patrick Aymon, au moment où il s'est viré, personne n'aurait gueulé si ça avait été un Woodcroft, par exemple. Et là, la décision a été critiquée et aujourd'hui, tout le monde, parce que ça, on le voit notamment sur les réseaux sociaux, tout le monde reprend du plaisir à avoir joué cette équipe. Avec un entraîneur qu'au départ, personne ne voulait.
Et puis surtout, il n'y a pas eu que des victoires faciles. Il y a eu certes cette victoire contre Zouk 5-1, qui est un peu le mauvais exemple dans l'histoire, mais cette victoire contre Zurich, le 9 décembre, qui était le dernier match avant celui-là, c'était pas, le score c'était 3-1. C'était une victoire quand même assez compliquée à aller chercher. La victoire contre Bienne, elle n'a pas été évidente non plus. La victoire contre Rapperswil, c'est toutes des équipes qu'il fallait battre. Rapperswil, hein, on rappelle quand même les deuxièmes du classement. Zurich, certes, ils sont sixièmes, mais ça reste Zurich. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Et pour revenir sur le temps de jeu, parce que c'était quand même le postulat de départ, effectivement.
On n'en a pas du tout parlé. Mais...
Le temps de jeu, on n'a plus de banc qui est coupé en deux dès la mi-match quand ça devient un peu compliqué. On l'a vu contre Zurich où les temps de jeu ont été relativement bien répartis. Tom Ernest fait des matchs, cette fois vraiment, entre 24 et 25 minutes. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'il y ait ces 2 minutes en moins, parce qu'il frôlait même des fois les 30 en début de saison. Mais voilà, il y a des temps de jeu qui sont équitablement répartis. Je pense que ça doit profiter à tout le monde. J'en ai pas forcément discuté avec tous les joueurs, mais je pense que tout le monde doit être content de pouvoir jouer sa dizaine de minutes par match. Et ça profite à certains joueurs. Moi, il y a un joueur que je cite, et pourtant on l'a critiqué, hein. C'est Denis Smirnov, qui depuis quelques matchs, depuis qu'il a de nouveau la confiance, depuis qu'il peut jouer au centre, etc., fait de très très bons matchs et de très bonnes choses à l'image de cet assist magnifique qu'il fait ce soir sur Vermine.
Ouais.
Et il fallait la faire, et Smirnov a du temps de jeu, a la confiance de son entraîneur, et ça se voit sur la glace, ça, il reprend du poil de la bête tout simplement.
Ouais, je trouve qu'il a encore une fois ce fameux body language, là, on parle beaucoup pour un joueur de hockey, je trouve qu'il est... Alors évidemment que c'est plus facile d'avoir un bon body language quand l'équipe gagne, ça, c'est évident. Mais Smirnov en particulier, effectivement, tu l'as dit, on l'a plusieurs fois critiqué, même si on n'aime pas le faire, mais quand il faut le faire, on le fait, on ne va pas se cacher. Il n'était pas au niveau qu'on attendait de lui. Alors, les plus mauvaises langues, je l'ai lu l'autre jour à quelque part, diront il cherche un contrat. Oui, mais sauf que qu'il cherche un contrat ou non, en ce moment, il est bon. Oui. Il fait bien le boulot en comblant les absences. Parfois, il est à l'aile, parfois, il est au centre, il est un petit peu trimballé un petit peu partout. Et il fait bien le boulot. Donc effectivement, il bénéficie, lui, je pense, de l'apport de Yann Cadieux. Peut-être qu'avec Patrick Aymon, ils étaient arrivés un peu en bout de leur relation.
Ça, nous, on ne sait pas.
On ne sait pas, là, on suppose. Mais nous, on ne fait que des suppositions, encore une fois. Il y a des fois, on a des infos et on vous le dit. La plupart du temps, on suppose, on fait des grandes théories, mais parce qu'on suit ce club d'assez près pour espérer ne pas dire que des bêtises. Mais en tout cas, il y a une sorte de renouveau chez Denis Smirnov qui fait assez plaisir. Et pour revenir sur les temps de jeu... Tu l'as dit, il y a moins ce sentiment qu'il y a deux lignes qui jouent tout et puis les autres, on leur donne un peu des miettes. Alors évidemment, en powerplay, on a tendance à beaucoup aligner les étrangers, mais tu peux difficilement faire autrement quand ils sont aussi bons. Mm-hmm. En plus, là, ce soir, pour reprendre uniquement le match de Zug, à un moment, ils sont restés pendant 1 minute 30 dans la zone. Bah, tu veux faire comment pour les sortir?
Oui, c'est ça.
Tu peux pas. Donc,
ils n'étaient même pas fatigués à la fin.
C'est ça. Donc oui, les temps de jeu, mais c'est normal, en même temps, dans toutes les équipes, ton défenseur numéro 1, il a un temps de jeu un peu supérieur aux autres. Un Tom Ernest, il a certainement besoin de jouer 24 minutes par match, il est habitué à ce rythme-là. Par contre, les 2 minutes qu'il ne joue plus, c'est du temps qui est redistribué chez des Carrères et des Lecoultre, qui légitimement pouvaient être un tout petit peu frustrés au début de saison par leur temps de jeu, et qui, je pense, aujourd'hui, sont nettement moins. En plus, Carrères est aligné avec Tom Ernest, donc du coup, ça sert forcément un peu sa cause.
Ouais. Et puis, il y a aussi, on parle de l'alignement, et il y a des choix dans les lignes qui sont faits, qui sont assez intéressants, parce qu'on en a... Enfin, t'en as beaucoup parlé quand on commentait, mais on n'en a jamais vraiment parlé en podcast, mais il faut compléter cette ligne Joris-Vermine. Il y a Tyler Meuil qui est en troisième ligne. On a déjà vu des fois ces trois joueurs alignés ensemble qui tournent plutôt bien, non ? il y a ce choix d'aller chercher Benjamin Antonetti pour le mettre en deuxième ligne, pour pas non plus trop déséquilibrer la troisième. Enfin, il y a vraiment des choix qui sont faits qui sont... Alors, évidemment, c'est pas le choix de l'année de mettre Benjamin Antonetti en deuxième ligne. On peut pas dire que Yann Cadieu est le meilleur coach de la Terre parce qu'il a pris ce choix. Non, mais le choix, il fallait le faire. Le choix, il fallait l'assumer. C'est Benjamin Antonetti, c'est un joueur qui est pas au début de sa carrière, qui a été cherché pour jouer en quatrième ligne, mais qui a eu des rôles offensifs par le passé, notamment à Lausanne. Et moi, je trouve que c'est une ligne qui fonctionne plutôt bien. On sait qu'en plus, Antonetti, c'est un joueur qui vraiment mouille le maillot sur la glace, donc il va très bien avec Josh Joris et Joël Vermine, qui aussi sont deux énormes travailleurs. Enfin voilà, il y a des choix qui sont faits qui sont hyper intéressants. Et effectivement, aussi aligner Tomernes et Carrère, bon, ça, je crois qu'Aimon l'avait déjà fait aussi avant. Mais enfin voilà, il y a des choix d'alignement qui sont intéressants à faire. Et du coup, moi, c'est aussi pour ça que je suis assez content de retourner commenter cette équipe. C'est que, alors je dis pas que j'étais plus comme heureux d'aller commenter les matchs, mais évidemment, quand on sait qu'on se déplace et que Genève va perdre.
C'est ça, quand tu sais qu'il y a 8 chances sur 10 que ça finisse par une défaite, c'est moins motivant de te taper 400 kills.
Ouais, là maintenant, il y a vraiment ce plaisir de se dire, ok, et si Genève perd, au moins il y aura des choses qui auront été tentées. Il y aura eu des temps morts qui auront été pris, il y aura des choses. Parce que de nouveau, si je reprends ce match contre Ajoie où Genève gagne 3-0 après 40 minutes, mais perd finalement, il n'y a pas eu un temps mort qui a été pris, il y a eu zéro réaction. Bah là, on a envie de se dire, ok, l'équipe s'est laissée battre. Tandis que là, au moins, avec Cadieu, on n'a pas cette sensation-là.
Ouais, et puis depuis l'arrivée de Yann Cadieu, pardon, on a parlé de ses 6 victoires en 8 matchs. Donc 6 victoires, ça fait 18 points en rangée, parce que c'est que 10 victoires dans le temps réglementaire. Ouais. Ça fait 18 points en rangée. Ça permet à Genève Servette, à l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle on se parle, donc 23h23 le samedi 23 décembre.
Jeudi 23 décembre.
Genève Servette est 10e au classement. Alors, Arnaud Jacquemel a dit après le match, c'est évidemment pas la place qui était espérée par le club au début de saison. Évidemment, personne ne peut nier que le début de saison est raté. Il n'a pas dit ça de le dire à ce moment-là de la saison. Mais Genève Servette, à ce jour, a un match de moins que Lausanne et 2 points de retard. Donc virtuellement, Genève Servette est devant Lausanne.
Ouais.
Et Dieu sait qu'on a parlé du début de saison catastrophique de Genève Servette, un peu moins de celui de Lausanne.
Qui est en train de se planter maintenant.
Qui est en train de prendre rousse sur rousse en ce moment, donc ça ne les favorise pas. Genève Servette qui est à un match de moins que Berne avec 4 points de retard, donc virtuellement tu peux recoller Berne. Donc on est passé en quelques semaines. Donc Patrick Aimon s'est fait licencier le 10 novembre. Hein. Le premier match de Yann Cadieu à la bande, c'était Genève Zoug, effectivement, le 19 novembre, donc 9 jours après sa prise de fonction. On est passé du 10 novembre à se dire Genève Servette n'a aucune chance d'accrocher les pré-playoffs. On était tellement au fond du trou qu'on se disait mais avec cette équipe-là, on va dans le mur, on va jouer 52 matchs et puis salut. À là, tout d'un coup, limite. Alors les play-offs, ça paraît très ambitieux, les play-offs sans passer par les pré-playoffs, mais on est en train de se dire bah, pourquoi pas commencer les pré-playoffs à domicile.
Ouais, c'est ça.
Chose qui était complètement inespérée il y a un peu plus d'un mois. Donc le bilan. Parce que le bilan d'un entraîneur, alors on peut parler de tout ce qu'on veut sur la glace, des alignements, des changements qu'il a apportés, le bilan, il va être jugé sur les résultats. Et pour l'instant, sur le résultat, je le répète au moins pour la 8e fois, je pense, depuis le début de ce podcast, 6 victoires en 8 matchs.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que tu veux reprocher à Yann Cadieu et à la décision qui a été prise en amont?
Non, effectivement. Et puis, Genève Servette, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que, par exemple, ils sont à 3... Ils ont combien? Ils ont 10 points de moins que Lugano, qui est 7e, mais ils ont 3 matchs de moins. Alors, je vais faire un raccourci qui n'est pas toujours juste, hein, mais si on extrapole sur le fait que Genève Servette remporte les 3 matchs qu'ils ont au moins sur Lugano, ils reviennent à 1 point de Lugano. Ce qui est de nouveau, reprenez juste en milieu de saison et dites-vous, est-ce que Genève Servette a vraiment les capacités d'aller accrocher même la 7e place et donc commencer les pré-playoffs à domicile? La réponse était catégorique, même nous on l'a dit, enfin tout le monde l'a dit, on n'était pas défaitiste, on était réaliste avec ce qu'on voyait à ce moment-là sur la glace. Genève Servette aurait été incapable d'atteindre les play-offs ou de rêver encore aux play-offs, d'atteindre les pré-playoffs ou même commencer les pré-playoffs à domicile. Et là Genève Servette recommence à y croire, et je pense que c'est... Yann Cadieu n'a peut-être pas été la solution à tous les problèmes, mais en tout cas, il a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait du bien à l'équipe. Ça travaille différemment aux entraînements. Il y a une meilleure ambiance, ça travaille un peu plus fort. On a des exercices variés aussi, parce qu'à la fin, avant le changement d'entraîneur, on avait un peu toujours les mêmes exercices qui étaient donnés. Là, il y a vraiment une grosse différence qui a été apportée avec l'apport aussi de Richard Franzen, hein, qui a travaillé sur le powerplay, donc qui fait beaucoup de bien. On l'a vu, le powerplay de Genève qui est en train de redécoller. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette équipe qui font qu'il y a une émulsion positive, une ambiance positive tout autour. Et tu l'as dit, l'atmosphère autour de l'équipe, on le sent, elle est vraiment différente.
Ouais, en fait, on l'avait dit au moment du licenciement de Patrick Aimon. Au bout d'un moment, quand tu es dans une spirale de défaite, soit tu pars du principe que bon, cette saison, il n'y a pas de relégation, on s'en fout si on se fait chier pendant 50 matchs et puis on finit 11e, puis tout le monde est content. Personne n'aurait été content de ça.
Ouais.
Soit tu, donc c'est, en gros, c'est soit tu n'agis pas, tu fais comme Patémon quand tu prends deux buts en 30 secondes contre Ajoie, c'est que tu ne prends pas de temps mort, puis tu dis bon, on verra bien comment ça se termine, ou tu prends une décision forte, quitte à ce qu'elle soit impopulaire.
Ouais.
Là, le club a décidé de prendre une décision impopulaire. Aujourd'hui, ça fonctionne. Et si on est passé d'une équipe moribonde...
Mais attention, quand on dit ça, on n'est pas en train de critiquer. On critique le Patémon en tant qu'entraîneur, en tant qu'homme. Jamais on va se permettre de le critiquer. Et on va pas non plus. Et de nouveau, mais je pense que c'est bien de leur dire à chaque fois, on n'est pas en train de détruire tout ce qui a porté Patémon.
On était
à la patinoire de Zoug. On a vu les images du titre de l'année passée et de Zoug. Mais Genève est allé en finale aussi avec Patémon. Enfin, on n'est pas en train de tout démolir. On est juste en train de dire qu'il fallait changer quelque chose.
Il fallait changer quelque chose. Ce déclic a eu lieu. Il se trouve que c'est Yann Cadieux qui reprend les commandes et depuis ça va mieux. Et après on a aussi, alors pas trop, mais on a aussi surtout, enfin toi et moi, entendu un peu les langues se délier après le départ de Patrick Aymon. Il faut aussi bien comprendre que pas tout était parfaitement fait par Patrick Aymon non plus.
Ouais.
Donc encore une fois,
et que tout ce qu'on a pu lire notamment n'est pas tout spécifiquement juste.
Voilà, c'est Yann Cadieux n'est pas un rat. Patrick Aymon n'est pas Dieu le Père non plus. Il a fait des choses magnifiques et on le remerciera jamais assez des émotions qu'on a pu vivre la saison passée. Mm-hmm. Mais il y a aussi certaines choses, manifestement des choses qu'on lui proposait ou qu'on lui mettait sous les yeux qu'il n'avait pas envie de lire ou pas envie de voir ou pas envie d'entendre. Peut-être que c'est des choses que ça, Yann Cadieux est plus avec lesquelles il est plus prêt à travailler aussi, et les joueurs et peut-être aussi le staff, et on est conscient, et il y a certainement un plaisir de revenir tous les matins à l'entraînement qui est retrouvé pour les joueurs, parce que quand tu es dans une spirale de défaite, ton entraîneur t'a beau avoir une certaine sympathie, si tu vois qu'il n'est pas capable de faire changer les choses, au moment où tu dis bon, c'est soit tu bouges, soit ça ne va plus le faire, et ça ne l'a plus fait.
Et après, Yann Cadieux, il faut aussi se dire qu'il a 41 ans. C'est jeune hein, pour un coach. Du coup, il a vraiment une vision. C'est quelqu'un qui, il le dit lui-même, hein, mais tout le monde autour le dit, c'est quelqu'un qui vit hockey, qui mange hockey, qui bouffe du hockey, qui est un amoureux du hockey. C'est plus qu'un passionné, c'est vraiment un amoureux du hockey sur glace. Et à 41 ans, il a certaines visions. Je sais que, notamment, on m'avait dit qu'il avait un classeur avec... Il a scruté tous les entraînements des équipes de NHL sur comment il travaille, par exemple, sur certaines phases du jeu. Et tout ce genre de choses, bah, ça apporte des connaissances en plus. Évidemment que la Ligue Suisse, la National League n'est pas la National Hockey League, enfin la NHL, et que les patinoires sont différentes, etc. Mais aller voir comment ça se fait dans la meilleure ligue du monde, c'est rarement une mauvaise idée. Ça reste la meilleure ligue du monde. Donc, je veux dire, il y a toute cette approche aussi. Et je pense que cette approche moderne avec le groupe, ça doit pas être évident de se faire respecter, hein, parce que mine de rien, il a que 3-4 ans d'écart avec les plus vieux du vestiaire, mais il a l'air d'y arriver. Enfin, il y a vraiment cette atmosphère positive qui se met autour d'un entraîneur jeune, qui a peut-être une vision un peu plus moderne du hockey que certains, et ça fait du bien aussi au niveau du jeu. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette apport. On voit, Yann Cadieux l'avait dit, qu'il voulait beaucoup plus que les défenseurs participent à l'attaque et à poser le jeu. On voit beaucoup plus des défenseurs prendre le puck de leur base arrière, tout traverser la zone neutre et vraiment aller porter le puck. Le meilleur exemple, c'est un but marqué contre Ambry. Je crois que c'est le premier but où Vatanen prend le puck. Bon, c'est Vatanen déjà, mais prend le puck quasiment derrière son but, va sur la droite des goals d'Ambry, donne au centre. Il y a goal parce qu'il y a Pouliot qui était par là. Enfin, voilà, on a d'autres visions qui arrivent. Et moi, franchement, ça me fait plaisir. Et avec du recul, humainement, je regrette toujours, non pas l'arrivée d'Yann Cadieux, mais le départ de Patémon. Mais par contre, au niveau du jeu, moi, j'ai rien à dire. Je suis à 100% content de ce changement.
Ouais, et en fait, je pense qu'Yann Cadieux a, pour moi, trois problèmes. Le premier, c'est qu'il est venu, il vient après Patrick Aymon, que tout le monde avait en sympathie absolue. Ouais. Encore une fois, à juste titre. Le deuxième, c'est que dès son arrivée, on a dit « Ouais, mais il a tout fait pour savonner la planche de Patrick Aymon ». Donc forcément, les gens, quand ils lisent ça, ils disent « Ouais, mais c'est qui ce mec ?» En gros, c'était l'assistant, il a tout fait pour faire en sorte que son chef, du coup, se barre, enfin son coach principal se barre. Donc il était, en guillemets, pris en grippe, en tout cas, pas forcément pris en grippe, mais regardez un petit peu en chef en disant « c'est qui ce mec qui vient là ? On ne sait pas trop ». Et le troisième, c'est qu'il est, je pense qu'il a des progrès à faire au niveau de la communication et du marketing de soi-même.
Ouais. Ça va déjà mieux.
Ça va déjà mieux, mais ça reste quand même quelqu'un qui est pas encore forcément très à l'aise devant les médias, qui paraît moins sympathique. Et du coup, les gens sont passés de quelqu'un. Alors, on est passé de Max Sorley
qui était partout, qui n'aura jamais égalé.
Donc Max, après, il y a Woodcroft que tout le monde a très très envie d'oublier rapidement, que tout le monde a déjà oublié peut-être même. Ensuite, on a Patrick Aymon, t'as l'impression que c'est le papa, le mec gentil, etc. Et derrière, tu passes à un Cadieux qui dégage une image beaucoup plus froide, beaucoup plus distante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de sympa.
Qu'est-ce qu'on demande à un coach ?
on lui demande pas ça, mais on aurait aussi envie que l'entraîneur de l'équipe soit quelqu'un de sympa, de rigolo, de machin. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément chez lui. Et c'est peut-être le reproche qu'on peut.
Mais quand t'as Tanner Richard, Noah Roth dans le vestiaire, t'as pas besoin d'être sympa. T'as les joueurs qui le sont pour toi.
On est d'accord. Mais voilà, c'est, je pense que le choc a été dur à encaisser pour les gens parce qu'ils perdent quelqu'un de sympa pour quelqu'un qui soi-disant aurait savonné la planche. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on a lu rapidement dans les médias après la décision. Et qui en plus n'est pas forcément très à l'aise ou n'a pas le même côté proche des gens en fait. Et je pense qu'il paye un petit peu ça aussi.
Ouais, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que certes, actuellement tout va bien, mais on va voir aussi la saison est encore de plus en plus courte.
Effectivement, c'est...
elle n'est pas encore longue, elle est de plus en plus
courte. Elle est de plus en plus courte. Et pour, encore une fois, là, on fait un bilan après 8 matchs.
Ouais.
Donc on, peut, c'est peut-être, on pourrait aussi dire à l'inverse. C'est la lune de miel pour l'instant, tout rigole. Et puis, puis on se revoit dans 3 semaines. Donc, bon, ben, on est sur 5 défaites consécutives. Est-ce que Yann Gattu est vraiment l'homme de la situation?
Mais après le mois de janvier, on aura une bonne indication. Parce que Genève Servette va jouer 11 matchs en 3-4 semaines.
Ouais, donc, on, je pense qu'on va pouvoir faire un gros bilan au moment de la pause olympique.
Ouais.
Si Jeux olympiques il y a vraiment.
Ouais.
Mais voilà, donc encore une fois, vous le savez, si vous nous écoutez, on a tendance à dire beaucoup de choses. Puis droit derrière, ça se
contredit.
Ça se contredit.
Bah là, on est malin parce qu'il y a les vacances qui arrivent.
Ouais, exactement. C'est pas pour rien qu'on enregistre aujourd'hui.
Mais, je nous imagine quand même enregistrer ça avant le match de Zoom en disant « Ouais, alors on verra après le match de Zoom. » Il y a 5-1 pour Genève Servette.
C'est ça. Mais disons que voilà, il y a 8 matchs. Pour l'instant, ça se passe très bien. Vous savez, comme vous aimez, enfin, tout le monde sait très bien que si tu as une série inverse dans le mois de janvier, par exemple, si tu perds 8 des 11 matchs du mois de janvier, on va revenir au micro et dire bah, est-ce que Yann Gattu, vraiment, c'est la bonne solution? C'est bien sûr, est-ce que tu penses vraiment qu'il aurait fallu se séparer de... Donc, évidemment que la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain. Mais là, encore une fois, on enregistre le podcast là, aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué de critiquer l'arrivée de Yann Gattu à la bande.
Oui, et puis effectivement, tu l'as dit, on peut dire tout ce qu'on veut sur un entraîneur, etc. Le point principal, c'est le classement. Genève Servette est 10e. On peut recommencer à croire, alors avec de grands rêves, mais à une 6e place. Moi, je continue d'y croire.
Oui,
d'y croire. Mais en tout cas, à commencer les pré-playoffs à domicile, et Genève Servette va passer les fêtes au-dessus de la 2e barre. Juste.
Oui.
Voilà, je pense qu'avec ça, on peut conclure l'épisode.
Ouais, j'ai. Alors...
Vas-y.
Ah, je suis désolé, du coup, je te foire ta conclusion, mais la question, c'est, on l'a dit, tu l'as dit, je l'ai dit aussi, le but d'un entraîneur, c'est de gagner.
Oui.
Il est jugé uniquement là-dessus. Donc, en gros, la question, c'est, est-ce que tu préfères avoir des résultats avec... Alors, je ne dis pas qu'Yann Gattu est ce que je vais dire, mais est-ce que tu préfères supporter une équipe avec un entraîneur qui est un immense trou du cul, mais qui te fait gagner, ou perdre avec un entraîneur qui va te faire des câlins à la fin du match?
En gros, est-ce que tu préfères gagner avec Craig Woodcroft?
Oui, bah, par exemple, voilà, pour prendre un exemple.
Avec Aymon.
Oui, mais c'est ça. À la fin, ce dont on se rappellera, c'est les résultats. Ouais. Si un jour Genève Servette fait un titre avec un entraîneur qui est imbuvable, bah, Genève Servette fêtera un titre.
C'est ça. Et donc, on oubliera l'entraîneur.
Et on oubliera l'entraîneur derrière. Donc voilà. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Yann Gattu est un trou du cul. Je suis simplement en train de dire que c'est pas parce qu'il dégage une impression de sympathie moins forte que Patrick Aymon que ça y est, on a perdu ce match.
J'aime le fait qu'on doive le préciser. Alors on n'est pas en train de dire que.
Non, mais non, parce qu'après on va nous dire, ah, mais t'as vu ce qu'il a dit au podcast? Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est simplement que. Évidemment qu'on aimerait tous une équipe qui gagne avec des joueurs qui sont tous méga sympas, puis un entraîneur qui est génial. Mais s'il faut avoir un entraîneur qui est un peu moins, qui paraît en tout cas un peu moins sympathique, mais qui amène des résultats, moi je signe les deux mains, il n'y a aucun souci.
Ouais, c'est clair. Et évidemment, comme d'habitude, si un jour Genève Servette est champion, on va oublier tout ce qui est autour.
On oubliera tout.
On va juste penser à ce magnifique vase à fleurs là, qui sera soulevé par Noah Roth, on l'espère, au-dessus de sa tête. Je te propose de rester là.
Ouais, ça c'est une belle conclusion.
Ça c'est une belle conclusion magnifique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Nico pour cette année 2021 qui a vu la naissance du podcast 1905.
Voilà, donc on termine notre première année civile avec ce podcast.
On marque une semaine de pause.
Ouais, et on se retrouvera la première semaine de janvier.
C'est-à-dire
le 6 après le match contre Ambry du mardi 4.
Exact.
En attendant, merci à toutes. Et tous de nous écouter régulièrement. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Nous vous souhaitons
de super fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Profitez bien du peu qu'on peut pouvoir profiter durant ces fêtes. Et on se retrouve en début d'année prochaine.
Ouais, merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour vos remarques. Hein. Vous êtes plusieurs à nous écrire et ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner vos retours, que ce soit négatif ou positif. On prend évidemment la critique et on prend vos remarques positives aussi. En tout cas, le podcast a été lancé en 2021. Une chose est sûre, il continue en 2022. On se donne rendez-vous, vous l'avez compris. Donc, le jeudi 6 janvier, après le premier match de l'année, ce sera contre Ambri Piotta, à suivre évidemment en direct sur Radio Lac. Et d'ici là, le podcast 905 qui est à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming préférées ou votre plateforme forme de streaming préférée, évidemment, sur radiolac.ch et sur tous les réseaux sociaux. Excellent Noël, puisque cet épisode sort le 24 décembre quand même. Excellente fête de Noël, bonne année et donc à l'année prochaine. Ciao, ciao.